L'Institut Montparnasse, think tank de la MGEN, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce numéro spécial du podcast Bâtissons des futurs solidaires, nous accueillons Edgar Morin, éminent philosophe et sociologue, dont les travaux et la pensée nourrissent et irriguent les questionnements et réflexions de l'Institut Montparnasse. L'Institut Montparnasse étant le premier mécène de la Fondation Edgar Morin, fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Edgar Morin est né le 8 juillet 1921 sous le nom d'Edgar Naoum. Il est l'un des derniers grands intellectuels français à avoir traversé le XXe siècle et à pouvoir nous éclairer sur les enseignements à tirer des grands événements qui l'ont constitué. Un passé au sein de la Résistance dans laquelle il entre en 1943, une adhésion au Parti communiste qu'il critique et quitte avant beaucoup d'autres, il est le penseur de la complexité qui vise à démontrer que le savoir, les sciences, ne doivent pas être des blocs isolés. La vie, c'est le mouvement, les hybridations, les hasards, tout ce qui se tisse ensemble. Phénomène qu'il nomme la complexité et la transdisciplinarité. Au cours des dernières décennies, diverses causes l'animent, causes qu'il transforme en autant de combats. L'écologie, l'Europe, ainsi que toutes les voies qui mènent au développement de la citoyenneté et de la solidarité. Il est l'auteur de centaines d'articles et de dizaines de livres. Son œuvre majeure est La méthode, composée de 6 volumes. Ses deux derniers ouvrages parus en 2020 s'intitulent « Changeons de voie, les leçons du coronavirus » avec la collaboration de Saba Abou Essalam chez De Noël et « L'entrée dans l'ère écologique » aux éditions de l'Aube. Dans le deuxième numéro spécial du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », Edgar Morin évoque l'idée que les mutualités des différents pays devraient s'associer pour se renforcer, une arme efficace à ses yeux, notamment afin de lutter ensemble contre les extrémismes. Il invite la jeunesse à chercher du sens en explorant et améliorant sa connaissance du passé, ceci afin de mieux vivre. Enfin, il forme un vœu pour la mutualité, qu'elle sache s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. J'ai une question qui porte maintenant sur la présence de la mutualité dans différents pays du monde. Notamment l'Institut Montparnasse est impliqué au Liban, en Afrique de l'Ouest, au Canada et a en son sein des mutuelles belges et françaises comme Solidaris et la MGEN. Qu'est-ce que vous pourriez entrevoir dans cette présence à l'international? Est-ce que ça pourrait être une voie pour les mutuelles?
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je pense que le concept de mutuelle n'est pas un concept fermé sur une nation. C'est un concept qui naît dans un cadre parfois même régional, puis national. Il peut être dans un cadre plus large, pas seulement européen, mais international. Moi, je pense que là aussi, le problème de la solidarité ne se pose pas seulement à l'intérieur d'une société, il se pose au niveau de la planète. Dans le fond, aussi bien la mondialisation a créé des périls, et notamment le péril nucléaire, le péril écologique planétaire, des dégradations des conditions de vie. Bon, donc vous avez, par rapport à ces périls, des réponses justement, comme de la mutuelle en donne, puisque je l'ai dit dès le début, qu'est-ce que c'est? C'est une façon solidaire de répondre à des périls. Alors donc aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience de notre communauté de destin humaine, et c'est dans ce cadre-là que peut se développer justement une internationale mutualiste. Vous avez aujourd'hui sur le plan mondial des trusts de géants, vous avez les GAFSA, vous avez Sony, vous avez des multinationales. Pourquoi donc il n'y aurait pas des mutualismes multinationaux? Voilà.
Ces mutuelles de tout pays, unissez-vous dont vous nous parlez là. Vous l'avez dit avec un petit peu d'humour dans la voix. J'aimerais qu'on élargisse encore plus sur les apports des fondements du mutualisme à l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment voyez-vous les choses?
Écoutez, c'est impliqué dans ce que je viens de dire. puisque dans le fond, aujourd'hui, la communauté de destin de tous les humains nous renvoie au fait que nous avons tous cette humanité en commun, bien entendu à travers nos diversités individuelles, nos diversités culturelles, nos diversités de croyances. Donc, cette idée, disons, de l'appartenance fondamentale à l'humanité devrait aujourd'hui ressortir, pas seulement parce que nous avons un destin commun désormais à cause de la mondialisation, mais aussi parce que la science, les sciences nous ont montré à quel point l'humanité est issue du monde vivant, du monde des primates, que c'est une histoire extraordinaire qui a duré des millions d'années pour qu'il y ait le redressement de la colonne vertébrale, pour qu'il y ait le bipédisme, pour qu'il y ait la libération du cerveau, pour qu'il y ait les mains, pour que finalement nous devenions humains tout en restant animaux, mais on doit être humain avec notre pensée, notre culture. Donc il y a quand même une réalité humaine à laquelle nous appartenons. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, parce que nous vivons une crise multiforme, parce que ce n'est pas seulement la pandémie, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est aussi la peur du futur. Le futur est devenu tout à fait incertain et inquiétant. Il y a aussi la crise économique qui revient. Et vous savez que dans les grandes crises aussi, les esprits se referment et cherchent un bouc émissaire, un coupable. Et moi, je me souviens, puisque j'ai vécu la grande crise qui a donné lieu d'où est sorti Hitler et la guerre mondiale. Aujourd'hui, la crise suscite des angoisses, mais une partie des angoisses va vers le sens humain, mais une trop petite partie, et le reste, ça se renferme sur l'identité, et on cherche le coupable, on est en train de le trouver d'ailleurs, c'est l'islam. Donc, si vous voulez, on arrive à ces visions-là. Donc, c'est vrai que nous devons un jour cultiver, régénérer notre humanisme, c'est-à-dire notre appartenance à l'humanité.
Est-ce que vous auriez envie d'envoyer un message aux jeunes générations, aux 20-30 ans, qui effectivement ont découvert l'incertitude pendant cette période de pandémie, pour lesquels l'entrée, par exemple, dans la vie professionnelle a été compromise ou reportée, ou en tout cas beaucoup plus difficile, leur laissant des perspectives plus floues? Quel message pourriez-vous leur donner à ces jeunes?
D'un côté, ils vivaient déjà une précarité due aux conditions économiques, et maintenant ils vivent une précarité aggravée dans les conditions de la pandémie, avec une incertitude du futur. Ils vivent une aventure risquée, mais c'est toute l'histoire de l'humanité. On a eu des petites périodes de pause, d'apparente tranquillité, d'ailleurs est-ce purement locale, parce que quand on parle des fameuses 30 glorieuses en France, on oublie qu'il y avait le conflit entre l'URSS et les États-Unis, on oublie qu'il y a eu le maoïsme, on oublie qu'il y a eu les choses sanglantes en Afrique, la colonisation, enfin bref. L'histoire humaine, malheureusement, c'est une aventure périlleuse. Donc, nous sommes des humains, nous devons assumer cette histoire. Non, mais nous l'assumer, pourquoi? Parce que, finalement, à travers cette aventure que nous vivons, nous nous rendons bien compte que, comme disait le vieil Héraclite, n'est-ce pas, il y a à la fois des forces d'union, de fraternité, de solidarité, et des forces de désunion, de rupture, de mépris, de mort, d'égoïsme. Donc, si vous voulez, il y a d'une façon inextricable ce qu'on peut appeler Eros, c'est-à-dire les forces d'amour, et Thanatos, les forces de mort, qui sont inséparables dans une lutte permanente. C'est ce que disait Freud. Ce sont les deux ennemis qui ne pourront jamais se séparer. Et finalement, je dirais, prenez parti pour les roses. Pourquoi? Mais pas, vous vous sentirez bien. Moi-même, quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais dans la résistance, donc je prenais un parti dangereux, mais je me sentais bien dans ma peau. Pourquoi? parce que je sentais qu'en accord avec moi-même et que je faisais quelque chose qui était juste, c'est-à-dire j'étais pour la liberté, pour l'émancipation. Aujourd'hui, il y a des forces d'oppression énormes qui travaillent dans la planète. Aujourd'hui, de plus en plus, on va pouvoir surveiller chacun, reconnaissance faciale, surveillance par drone, surveillance par les GAFSA, etc. Aujourd'hui, il y a des menaces. On est dans cette lutte-là pour la liberté, pour la communauté, pour la fraternité. Moi, je dis, c'est ça, la vie, c'est ça. J'ajouterais que vraiment chacun, pour être pleinement humain, non seulement il doit essayer de se réaliser soi-même, de réaliser ses aspirations, ça, il faut ne pas renoncer à ses aspirations, mais il faut avoir ses aspirations, mais toujours dans le cadre d'une communauté, pas seul, mais avec des frères, avec des sœurs, avec des amis, avec une association, d'être lié. Il faut être lié et relié sans cesse. Voilà ce que je pourrais dire.
Donc ces lieux de solidarité dont vous parliez tout à l'heure pourraient être ces lieux de lien et ces lieux de passage. Vous avez retracé des moments forts de notre histoire du début du XXe siècle.
Moi je crois que, enfin, si j'ai bien compris, on vit trop dans l'immédiat. On ignore complètement l'histoire, on ignore. Et c'est très important parce que l'histoire ne donne pas des leçons toutes faites. Mais moi, par exemple, j'ai vécu tellement de crises dans ma vie, y compris la guerre mondiale. Auparavant, la situation était très critique. Il y a eu la guerre d'Espagne, il y a eu beaucoup de choses. Et puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Mais si vous voulez, il y a eu la chute de la quatrième République, le putsch d'Alger, il y a eu le gaullisme, il y a eu, enfin, tellement d'événements. Donc, ce que je crois que c'est, il faut tirer, je dirais, une sorte d'attitude de ne pas sombrer d'abord. De vouloir connaître. Il ne faut pas être dans l'immédiat et dans l'ignorance. Et ensuite, ne pas sombrer dans l'hystérie, c'est-à-dire la frénésie, la colère, la rage. Il faut essayer de comprendre lucidement. Nous sommes de même aujourd'hui, vous voyez toutes les controverses sur la pandémie, toutes sortes, etc. Il faut essayer de comprendre, d'être lucide. Si on ne comprend pas, de ne pas prendre parti trop tôt. Il faut être vigilant et en même temps, il faut avoir la volonté de comprendre et la volonté d'agir dans le sens de la solidarité, la fraternité.
Voilà, c'est un appel à la sagesse que vous êtes en train de formuler. Quel vœu pourriez-vous formuler pour la mutualité française qui effectivement... une très belle histoire de la France et le premier mouvement social, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quel vœu pourriez-vous formuler en sa direction ?
Je souhaite que, dans le cadre d'un développement de plus en plus important de l'économie sociale et solidaire, le mouvement mutualiste lui-même se développe. L'avenir souhaitable, c'est celui de l'économie sociale et solidaire, c'est celui de mutuelle, c'est celui de la coopération, c'est celui de la solidarité. C'est ça, à mon avis, ce sont les forces qui sont riches d'un avenir fécond et qui nous doivent nous mobiliser.
Eh bien, je vous remercie pour cette belle conclusion. Pour peigner la réalité du monde comme vous l'avez décrite, mais il y a quand même des voies, il y a quand même des portes d'optimisme. Merci, Monsieur Morin. Vous venez d'écouter ce podcast spécial de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'avenir du modèle mutualiste. Nous remercions notre invité, Edgar Morin. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.